Bonsoir, comment allez-vous en ce 26 décembre où on est un peu chaud, hein, faut bien dire. Je vous propose de transformer votre calendrier de l'avant en calendrier de l'après. L'avant, V-E-N-T, signifie l'attente. Cette année, comme les précédentes, l'avant, l'attente a été active, remplie de préparatifs en tout genre. Ça fait un mois qu'on se démène. Et puis là, le lendemain, pof, plus rien. Si ce n'est des papiers à ranger et des restes à gérer. Et si au lieu de soigner ce petit spleen au chocolat, on remplissait les cases de notre calendrier maintenant vide de petits papiers. Sur chacun d'eux, nous écrivons un truc que nous avons réussi pour ce Noël. La bonne idée que nous avons eue pour faire tenir le sapin, la paix que nous avons fichue à nos enfants pour une fois, le coup de main qu'on a filé au Père Noël pour les cadeaux, la patience dont nous avons fait preuve quand la conversation est tombée sur les vaccins, l'intelligence qu'il a fallu pour ne pas prendre pour soi les paroles maladroites, parfois piquantes, la paix que nous avons fichue à notre conjoint, non, pas pour une fois, ça m'était déjà arrivé, la joie que nous avons maintenue sous la pluie, la cigarette que nous n'avons pas fumée, etc. Voilà, tous ces trucs qui peuvent ressembler à des niaiseries de développement personnel sont en fait précieux et pas si faciles à mettre en place. Chaque réussite remplit une case que nous refermons jour après jour. Le 19 janvier à la Saint-Marius, l'image du calendrier et l'image que nous avons de nous-mêmes sera restaurée. Ce calendrier de l'après n'est pas un jeu de mots pour la radio, c'est une aide pour gérer le baby blues qui nous tombe dessus sitôt qu'un événement tant attendu est passé.
Bonjour, je m'appelle Olivia et j'aimerais savoir de quand date le premier congé de maternité. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour Olivia, tu poses une question, tu t'en doutes, que nous proposons à une historienne, Véronique Antomarquis. Véronique Antomarquis, vous êtes enseignante à l'IUT de Paris, vous êtes chercheur au CERLOM et vous avez écrit, c'est pour ça que nous vous proposons la question d'Olivia, « Politique et famille sous la Troisième République » et c'est édité chez L'Harmattan. Alors depuis quand date le congé maternité ?
Alors Olivia, ta question est intéressante car elle montre que le congé maternité, qui apparaît aujourd'hui comme un droit pour toutes les mamans de se reposer avant la naissance et après la naissance de leur bébé, eh bien que ça correspond à une conquête sociale, somme toute assez récente. Le contexte historique est à préciser puisque la première loi c'est 1909. Hein. C'est vrai qu'il y a un contexte d'industrialisation avec l'entrée importante des femmes travaillant dans les usines, et cette loi de 1909, elle concernait principalement les ouvrières. Garantir le travail de la femme qui s'arrête, et permettre le droit de s'arrêter pendant 8 semaines, c'est-à-dire 4 semaines avant la naissance du bébé, 4 semaines après.
C'était pas mal pour un départ, pour un début.
C'était pas mal, sauf que la loi était déjà discutée depuis 1886, et ce qui accrochait, ce qui poser problème, c'était la question de l'indemnité. Parce que là, il s'agit en fait d'un droit au repos sans indemnité. C'est-à-dire que pendant 2 mois, la femme ne percevait aucun salaire.
Ah oui, donc, elle avait le droit de s'arrêter. Elle pouvait retrouver son travail.
Exactement.
Mais c'était un congé sans solde.
Exactement. Donc très peu de femmes, en fait, ont utilisé ce droit. Il faut attendre, pour compléter la question d'Olivia, 1913, la loi du 17 juin 1913, qui, elle, va poser la question de l'indemnité journalière. C'est une indemnité journalière qui ne couvrait pas totalement la perte du salaire. Et donc, toujours l'idée du repos, 4 semaines avant, 4 semaines après la naissance de l'enfant. Et la presse a été unanime pour reconnaître une loi qui apparaît comme une loi humaine, une loi sociale. Et en même temps, si cette loi, elle a été votée à l'unanimité, mais il y a eu des débats qui sont intéressants, notamment certains parlementaires qui critiquaient l'idée que, en donnant une allocation, ça allait donner en quelque sorte une prime à l'usine, au travail à l'usine, par rapport à celle qui restait au foyer et qui restait, cette image-là de la femme au foyer était quand même le modèle le plus répandu. Donc en fait, cette loi, elle est intéressante parce qu'elle marque, au fond, la reconnaissance de l'activité professionnelle des femmes. Et puis, aujourd'hui, les familles sont multiples et la durée du congé maternité n'est plus de 8 semaines, mais de 16 semaines. Elle a donc été doublée et elle s'organise ainsi, 6 semaines avant la naissance de l'enfant et 10 semaines après. Et certains, certaines, trouvent ce congé maternité encore trop court. Et la place du père là-dedans. Récemment, le congé paternité a été mis en place et il vient de passer de 14 jours à 28 jours.
Ça avance.
Ça avance.
Et le but, parce que c'était des hommes qui promulguaient les lois, j'imagine, en 1909, leur but était quoi ? De protéger la femme ou l'enfant ? Ou les deux, en général ?
Alors, en fait, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on est sur une loi qui concerne les femmes, la moitié de la population à l'époque, en 1909. C'est important de rappeler que les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles ne l'obtiendront que le 21 avril 1944. par décret. Elles sont considérées en 1909 comme en 1913 comme des êtres mineurs. Alors, ce sont des hommes qui votent ces lois, et comme je l'ai dit, l'argument est à la fois un argument social. C'est un argument également par rapport au contexte démographique, donc il y a indéniablement un argument nataliste, à savoir limiter la question de la mortalité infantile, c'est-à-dire la mort des enfants de moins de 1 an, et protéger aussi la santé des mères.
Voilà, Véronique Antomarquis, chercheuse, a écrit Politique et famille sous la Troisième République et c'est édité chez l'Harmattan. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions. Vous avez demandé ce soir quand les premiers pauvres sont arrivés. C'est Patrick Boucheron qui a répondu et Christophe Lavelle a répondu à pourquoi nous mangeons des châtaignes et pas des glands. Et Vinciane Després a répondu au langage des animaux. Est-ce que les sons correspondent à des mots, lui a demandé Candice. Ces questions ont été posées aux 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Nora, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi le cristal se casse quand on crie aiguement. Au revoir.
Bonsoir Nora, tu as peut-être lu Tintin avec la castafiore, ça me fait penser à ça ta question. Hervé Ribard, vous êtes directeur scientifique de Saint-Gobain. Je ne sais même pas si c'est vrai cette histoire de cri, de son en tout cas qui peut briser le cristal.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Bravo Nora.
Alors la castafiore, comme le dit Nora, savait faire ça très bien, mais d'autres chanteuses célèbres comme Ella Fitzgerald par exemple, a vraiment cassé des verres simplement en chantant de façon très aiguë, c'est vrai, et de façon suffisamment forte également pour que l'effet se produise. Alors, il n'y a pas que le cristal qui casse, tous les verres peuvent casser de cette façon-là. Ce qui compte, finalement, c'est que le son de la voix, peut être caractérisé par une certaine fréquence. Quand on a un son aigu, eh bien, on a affaire à une fréquence très élevée. Quand on a un son grave, on a au contraire affaire à une fréquence très basse. Eh bien, ce qui est important, c'est que la fréquence de la voix soit le plus proche possible de la fréquence naturelle de vibration de l'objet en verre. Quand on tape avec l'ongle ou avec une cuillère sur un verre, on l'entend bien qui chante, qui vibre. Et ce qu'il s'agit pour casser le verre, eh bien, c'est justement de l'exciter d'une certaine façon, c'est-à-dire de le soumettre à une onde sonore très intense qui soit égale à sa fréquence propre de vibration. Et à ce moment-là, la vibration augmente d'intensité, le verre se déforme finalement, on ne le voit pas à l'œil, mais on pourrait le voir avec des instruments plus sensibles. Le verre se déforme à cette fréquence-là, et si la déformation est très importante, eh bien c'est comme si on tapait dessus, et à ce moment-là, il casse.
C'est drôle, hein. Donc en fait, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas physiquement.
Oui, tout à fait.
Hervé Ribard, le cristal, c'est plus fragile que le verre? Ou c'est une légende?
Non, le cristal n'est pas véritablement plus fragile que le verre. En fait, la fragilité du verre n'est pas quelque chose qui est une caractéristique propre du matériau. Ce n'est pas un caractère intrinsèque. La meilleure preuve, c'est qu'on est capable de fabriquer des verres qui sont très résistants mécaniquement, qui ne cassent pas. C'est ce que nous faisons avec les fibres de verre qui sont justement utilisées pour leurs très bonnes propriétés mécaniques, pour renforcer des plastiques. C'est ce qu'on appelle les matériaux composites.
Hervé Haribard est physicien et chimiste, professeur, directeur scientifique de Saint-Gobain donc, membre de l'Académie des technologies et de la Société française de physique. Et il est lauréat du Grand Prix Aimé Poisson de l'Académie des sciences.
Si tu m'aimes demain, on sera des stars. 70, 80, qui se cachent leur gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris, la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des
Si tu m'aimes, passe.
même demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, dans un photomaton, on laissera de gros bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'avais pas mieux. Devoir se dire adieu, contourner pas heureux, se retrouver comme de vieux. Faut que si tu m'aimes, oh seulement si tu veux.
La chanteuse Iliona, choisie par Jean-Baptiste Audibert sur la playlist de France Inter, ça rime.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le principe des petits bateaux, vous le connaissez, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savantes et des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir ce qui nous prouve que les sons émis par les animaux ne sont pas des paroles non comprises par les humains.
Bonsoir Candice, alors nous avons proposé ta question à Vinciane Després, philosophe, passionné d'éthologie, écrivain, et vous enseignez également à l'université de Liège. Alors Candice, elle vous pose une question que je trouve drôlement compliquée. Savoir ce qui nous prouve que les sons produits par les animaux ne sont pas des paroles non comprises par les humains.
Eh bien Candice, j'adore cette question, parce que rien ne nous le prouve justement. Et qu'il me semble que d'abord les animaux, c'est certain qu'ils échangent des paroles. Alors je vais prendre un exemple très simple que je suis en train d'étudier pour le moment, les corneilles. Elles ne cessent de se parler et par exemple, non seulement elles se parlent entre elles, mais elles parlent parfois aux humains puisqu'elles sont capables d'imiter les mots des humains et qu'elles parlent aussi en imitant certains sons d'autres animaux. Quand une corneille dit « Attention les corneilles, il y a un faucon », eh bien elles imitent le son du faucon, ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle chez les animaux des formes, c'est un mot un peu compliqué, mais sémantique. Ça veut dire qu'il y a des formations de mots. Et donc, en fait, beaucoup d'animaux parlent avec des paroles, peut-être pas avec une grammaire aussi compliquée que la nôtre, il n'y a peut-être pas des verbes conjugués, il n'y a peut-être pas le mot « je », mais est-ce qu'on a besoin du mot « je » quand on est un animal ? Ça, c'est un autre problème. Et donc, peut-être que les animaux parlent beaucoup plus qu'on ne le pense, et que c'est nous qui ne sommes pas toujours capables, parce qu'on n'est pas très bien équipés, de bien les comprendre. Alors, petite chose encore, on a appris à des animaux à parler, on a appris à des singes, à des chimpanzés, alors on leur a appris la langue des signes, comme parlent les personnes qui sont malentendantes et donc qui n'apprennent pas à parler facilement, on leur apprend des lignes avec les mains, je ne sais pas si tu as déjà vu. Et puis, on leur a aussi appris à parler avec des lexigrammes. Alors, qu'est-ce que ce sont des lexigrammes ? Eh bien, on prend un ordinateur, et il y a des petites touches qui représentent des objets, et le chimpanzé peut, en touchant sur les objets, construire des phrases. On a aussi appris à parler à des perroquets. Bref, il y a plusieurs animaux qui ont appris à parler. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec ces animaux ? On leur apprend à parler notre langue, alors que nous ne sommes pas nous-mêmes capables de parler leur langue. Alors peut-être qu'on devrait sérieusement s'interroger sur le fait que nombre d'animaux sont bilingues, alors que nous ne parlons que la langue des humains.
C'est drôlement intéressant, hein ? Et on trouve toujours qu'un animal est intelligent quand il comprend des trucs d'humains. Et nous, est-ce que nous sommes assez intelligents pour comprendre des trucs d'animaux ? Vous écoutez les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi nous mangeons les châtaignes et pas les glands. Merci, au revoir.
Bonsoir Gabrielle, nous proposons ta question à Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais elle a raison, cette petite Gabrielle, Christophe Lavelle, non ?
Alors, oui et non, en fait, Gabrielle, contrairement aux idées reçues, tu peux manger des glands. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude d'en manger, mais ça correspond à une consommation traditionnelle qui a existé et que certains pratiquent encore. En fait, le gland, c'est le fruit du chêne, tout simplement le fruit des chênes, parce qu'on a tout un tas de variétés de chênes sur nos sols, qui ont des noms comme le chêne rouvre, hein, Quercus robur pour les plus scientifiques, le chêne sessible, le chêne pubescent, le chêne vert, tout ça ont des noms latins sophistiqués et coexistent dans nos forêts. Ils sont pas forcément évidents à distinguer l'un de l'autre, à part pour les spécialistes évidemment, mais peu importe, parce que de toute façon tous leurs fruits, donc leurs glands, sont comestibles indistinctement. Par contre, effectivement, on peut goûter un gland cru comme ça, en décortiquant un peu, ça va pas être agréable du tout, c'est très amer, très astringent, c'est-à-dire que ça assèche un peu la bouche.
Donc comme la châtaigne, en fait, c'est pas bon une châtaigne crue.
Une châtaigne crue, c'est pas bon non plus, mais le gland est, je dirais, encore pire à consommer comme ça, puisqu'il est vraiment très riche en tanins. Et donc, c'est ces molécules de tanins là, qui donnent ce côté très amer et très astringent. Ce qui fait qu'on, si on veut les consommer, et on peut le faire encore une fois, il faut bien les faire cuire dans plusieurs eaux en général pour justement éliminer, comme ces tanins sont solubles, à force de les cuire, ils disparaissent dans l'eau de cuisson. Et ce qui permet après de faire des recettes. Mais finalement, un peu les mêmes qu'on ferait avec des châtaignes, puisque justement, c'est des aliments qui sont très nutritifs, puisque très riches en amidon. Mais ça ressemble effectivement au mode de consommation des châtaignes, ou des marrons d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est vrai, quand on parle des châtaignes, il y a beaucoup de confusion entre châtaignes et marrons. Le marron que l'on consomme est issu aussi du châtaignier, c'est juste qu'il n'y a pas de cloison quand on ouvre la bogue, qu'il faut pas confondre avec le marron d'Inde, qui lui, pour le coup, est issu du marronnier, et là, est considéré comme non comestible, puisque effectivement, il est tellement riche en tanins, mais aussi en saponines, qui sont des molécules qui sont pas dangereuses, mais qui provoquent quand même des indigestions assez désagréables.
Donc toxiques, pas dangereux,
mais toxiques. Voilà, c'est que ça va vous faire vomir, hein. Ça va donner mal au bide, faire vomir, donc le marron d'Inde, on ne le consomme pas, ou vraiment, en cas de très forte disette, on peut essayer d'en extraire l'amidon, et ça s'est déjà vu dans les archives, mais c'est surtout la saponine qui pose problème dans le marron d'Inde, qui est en fait un très bon émulsifiant. C'est comme ça qu'on fait des très bonnes lessives.
Ah, saponine, sapon, savon.
Exactement, sapon, savon. Et du coup, c'est bien pour enlever la graisse du linge, mais le problème, c'est que si on mange de la saponine, ça va aussi émulsionner la graisse des intestins et attaquer les parois de nos cellules, donc c'est pas terrible. Mais c'est le marron d'Inde. Hein. Mais pour le gland, il n'y a pas de souci.
Et Christophe Lavelle, quand vous avez commencé à répondre, vous avez cité plusieurs sortes de chênes. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour la consommation ?
C'est pas vraiment qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est les régions. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est vers le nord, plus les glands vont être chargés en tanins, justement. Donc en fait, la consommation de glands, elle est plus facile dans le sud, dans les climats un peu plus chauds, où en fait, ces fruits se chargent moins dans ces tanins qui posent un peu problème.
Et dernière question, vous dites on les a mangés autrefois, c'est-à-dire à peu près quand et qui mangeait
dès la préhistoire, les chênes existaient sur nos sols, et on a des preuves de consommation de ces glands aussi loin qu'on puisse remonter, et ça reste une consommation traditionnelle, on va dire, dans les campagnes, qui a encore lieu aujourd'hui, et c'est vrai que ça paraît un peu, pour les citadins que nous sommes, un peu ésotérique, voire interdit, effectivement, d'où la question, bien sûr, on dit les glands, c'est pour les cochons, mais non, on peut en faire des recettes.
C'est un petit peu plus compliqué que d'ouvrir une boîte de crème de marron. Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, a écrit « Je mange donc, je suis », petit dictionnaire curieux de l'alimentation, aux éditions justement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous pouvez de toute façon, pour s'y retrouver entre les grands, les châtaignes, les marrons d'Inde, réécouter cette question sur France Inter, cette réponse plutôt, sur franceinter.fr.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone
And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Cet Alléluia de Jeff Buckley est peut-être encore plus beau que celui de Leonard Cohen. J'essaye de vous faire atterrir en douceur. Vous écoutez France Inter, les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Colette, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir quand les premiers pauvres sont arrivés. Merci.
Bonsoir Colette. Patrick Boucheron, vous êtes historien, vous êtes écrivain. Vous avez choisi cette question. Dis donc, c'est pas la plus facile.
Ah non, c'est une sacrée question.
En 3-4 minutes, hein, vous savez, vous n'êtes pas au Collège de France.
Eh ben, on y va.
Bon.
Écoutez, j'ai quand même envie de la retourner, cette question, Colette. De dire, au fond, la vraie question, la question la plus lourde et la plus difficile, c'est pourquoi il y a des riches. Parce qu'au fond, s'il y a des pauvres, c'est parce qu'ils ont quand même été appauvris par ceux qui ont pris l'argent. Ou en tout cas, les ressources. Et je crois qu'on peut dater ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire le moment où les femmes et les hommes deviennent agriculteurs, où ils s'arrêtent, où ils se sédentarisent, où ils font des villages, et où à ce moment-là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est, on va dire, entre le 7e et le 6e millénaire avant Jésus-Christ au Proche-Orient, et puis ça arrive en Europe après, au 5e millénaire, c'est l'âge de Carnac. Vous voyez les alignements de Carnac?
Oui, très bien.
Ces grandes choses.
Par le Morbihan.
Oui, oui, mais il faut savoir que, à partir du moment où archéologiquement on a ces grandes choses, ça veut dire qu'il y a des riches, et des très riches, et des très pauvres pour faire ces grandes choses. C'est contemporain des pyramides.
Patrick Boucheron, en vous entendant parler, je me dis peut-être aussi que quand on arrête de voyager, on peut stocker?
On peut stocker, on s'arrête. Et d'ailleurs, regardez où c'est Carnac. C'est au moment, c'est en Bretagne. C'est-à-dire, on peut pas aller plus loin. Et c'est le moment où effectivement, parce que le néolithique, c'est une grande et c'est un grand et vaste mouvement de population où, d'une certaine manière, on gagne des terres. Mais lorsqu'il n'y en a plus à gagner, on est au bout. Là, littéralement, on est au bout à Carnac. Oui.
C'est pas le Finistère, mais c'est presque.
C'est pas loin. Et donc, on s'arrête, on s'alourdit. Les riches deviennent de plus en plus riches, et d'ailleurs on le voit dans leurs tombes, et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais on peut répondre à Colette différemment, parce que sa question, depuis quand il y a des pauvres, quand ils sont arrivés, et pourquoi, les chrétiens se la posaient. Pourquoi y a-t-il des pauvres sur terre? Et vous savez comment il répondait?
Non.
Il disait, il y a des pauvres pour sauver les riches, pour sauver l'âme des riches. Parce que les riches n'entreront pas au paradis, sauf s'ils donnent aux pauvres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la charité chrétienne.
Il n'y a pas d'époque où tout le monde était pauvre parce que il y avait une météo épouvantable ou...
Je pense que...
Le pauvre avec le riche automatiquement.
Ben, c'est une question de pauvreté et d'inégalité. Et c'est pour ça que la question de Colette, elle est grave, hein, elle est sérieuse. C'est que aujourd'hui, je parlais de charité chrétienne. Quand ça a commencé à s'affaisser, on l'a remplacé par l'État social, l'État protecteur. Mais quand l'État protecteur lui-même est attaqué, qu'est-ce qui reste?
Voilà l'historien Patrick Boucheron, également professeur au Collège de France, propose sur France Inter, tous les dimanches, une émission juste après le journal de 13h, disons à 13h20, jusqu'à 14h. Comme souvent, c'est son titre qui m'a donné envie d'ouvrir ce livre, le livre dont je vais vous parler. Et c'est également son titre qui m'a donné envie de vous en parler le lendemain de Noël, puisqu'il s'appelle tout simplement « Faire la paix avec sa famille ». Il a l'honnêteté de ne pas nous dire que ce sera fait en 21 jours. Le mérite d'être assez simple dans sa forme, même si dans le fond on comprend qu'il y a un peu de boulot. Les deux auteurs, Saverio Tomasella et Charlotte Wills, citent beaucoup d'autres chercheurs ou praticiens morts ou bien vivants, ce qui prouve qu'eux-mêmes savent déjà composer avec les autres. Je vous donne quelques titres de chapitres, comme ça. Le premier, « Toute famille est un système ». Et puis, piocher de ci, de là. « Quand la famille tourmente ». « Quelle était ma place d'enfant ?» « Que se passe-t-il si je change ?» « Trouver la bonne distance ». L'art de décevoir ses proches, ça c'est drôle. Accepter les imperfections. À la fin du livre, on peut lire cette citation d'Albert Einstein. La paix ne peut être imposée ou maintenue par la force. Elle peut être seulement obtenue par la compréhension. Faire la paix avec sa famille est édité chez Larousse. Podcaster, mes amis, ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Ces petits bateaux ont été réalisés par Marjorie Devoucoux, mise en onde par Tiffany Battistel. J'ai tout à l'heure parlé de Jean-Baptiste Audibert, animé par Noël Bréham. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre Jérôme Garça pour un dernier Masque et la Plume de l'année qui sera consacré au théâtre.